à toutes et à tous et bienvenue dans ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Le 23 mars 2011, des navires de guerre et des avions de l'OTAN approchent des eaux territoriales de la Libye. À ce moment-là, l'opération Unified Protector est lancée avec deux objectifs: empêcher le transfert d'armes vers la Libye, mais aussi empêcher tout aéronef de bombarder des cibles civiles. 7 mois plus tard, le 31 octobre, l'opération prend fin après avoir atteint tous ses objectifs. Parmi les unités déployées, des bâtiments des différentes flottes, dont la frégate de défense aérienne Forbin et la frégate anti-aérienne Jean Barthe de la marine française. Alors, quels sont les avantages de l'interopérabilité? Quelles en sont les spécificités? Et quelles sont les spécificités des opérations otaniennes? On peut aussi se demander finalement aussi quels sont les plafonds de verre de l'interopérabilité. Pour en parler, nous recevons Philippe Gros, chercheur spécialisé en géostratégie et dans les questions militaires et opérationnelles pour la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour monsieur et bienvenue dans ECHO.
Bonjour, merci beaucoup de votre invitation.
Alors déjà, bon, pour commencer, posons un peu les bases du sujet. L'interopérabilité, c'est le fait de faciliter la collaboration de différents groupes pour augmenter les chances d'atteindre les objectifs. Ça passe par de la mise en relation de ressources, de forces et de moyens techniques et technologiques. Du coup, question bête, mais à quoi est-ce que ça sert lors des conflits?
L'interopérabilité sert à ce que différentes forces hétérogènes soient des forces de différents milieux, et là on parlera d'interopérabilité interarmée, soit des forces de différentes nations puissent opérer ensemble pour chacune maximiser les capacités, pour chacune s'appuyer pour pouvoir contribuer à de façon plus efficace à l'atteinte des objectifs stratégiques fixés. Vous avez deux façons de fabriquer de l'interopérabilité. Vous avez l'interopérabilité de circonstance et l'interopérabilité par conception, by design. C'est l'interopérabilité de conception, c'est celle auquel on pense systématiquement, c'est-à-dire une interopérabilité qui est développée dans le cadre de stratégies capacitaires sur le temps long. C'est justement l'interopérabilité qui passe par les standards, par la standardisation, par l'acquisition d'équipements communs ou interchangeables ou compatibles. Une interopérabilité qui se construit également sur le long terme dans le domaine humain avec les écoles d'état-major, etc. C'est dans le domaine humain. Et donc, ça, c'est une interopérabilité by design, par conception, qui s'oppose à l'interopérabilité de... Enfin, qui s'oppose. Disons qui se différencie, c'est pas qui s'oppose, mais qui se différencie de l'interopérabilité de circonstance, c'est-à-dire une interopérabilité qu'on va bâtir pour et dans un contexte particulier. Une interopérabilité qui va être bâtie pour ou dans le cadre d'un exercice majeur et évidemment d'opération.
Oui, donc il y a différents types d'interopérabilité, entre guillemets, c'est qu'il y a... Il y a l'interarmée, il y a l'international et il y a l'interagence. Et
effectivement, comme vous le dites, les trois domaines, on va dire, dans l'interopérabilité, interarmée, multinationale et interagence, qu'on a tout particulièrement tenté de développer dans le contexte des guerres irrégulières, de la contre-insurrection, etc., ce qu'on a appelé l'approche globale, qu'on a tendance maintenant à un peu oublier à l'aune de, comme on dit, le durcissement des postures, le retour de la compétition stratégique entre puissances, etc., etc. Reste donc l'interopérabilité, enfin reste en priorité l'interopérabilité interarmée, donc entre les forces aériennes, terrestres, navales, mais aussi maintenant les capacités cyber et en même temps la meilleure intégration des activités d'influence. Et une meilleure coordination dans l'utilisation du spectre électromagnétique. C'est ce qu'on appelle l'intégration multimilieu multichamp. Et puis vous avez évidemment l'interopérabilité multinationale qui est en matriciel de tout ça. C'est-à-dire l'interopérabilité...
En matriciel, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que même si les deux sont, comment dire, les deux domaines d'interopérabilité sont de nature différente, il est bien évident que vous retrouvez les deux problématiques qui se juxtaposent dans un conflit. Et vous pouvez avoir une problématique d'interopérabilité et interarmée et multinationale. Je vous donne un exemple. Si vous avez un contrôleur d'attaque terminale en appui aérien rapproché qui est de tel pays et un effecteur aérien de tel autre, vous combinez les deux aspects. Et ça n'a rien d'évident du tout.
C'est extrêmement complexe.
Ouais.
Quels sont les moyens pour faciliter l'interopérabilité? Quels sont...
Alors déjà, avant de parler des moyens, il faut préciser que, également, l'interopérabilité, ça recouvre quatre champs. Le premier champ, c'est le champ le plus évident, celui auquel tout le monde pense, c'est l'interopérabilité des systèmes d'armes, d'informations, c'est ce qu'on appellera l'interopérabilité technique.
Il faut que les systèmes,
communiquent entre eux, sachent se parler, comme on dit. Vous avez également une interopérabilité de ce que j'appellerais normative opérationnelle, c'est-à-dire l'interopérabilité au niveau des doctrines.
Juridique aussi.
Juridique. Alors juridique, ça renvoie également au quatrième champ que je vais évoquer. C'est-à-dire, je poursuis sur mon exemple de l'appui aérien rapproché, il faut que vous ayez les mêmes procédures, les mêmes doctrines pour pouvoir opérer ensemble dans cette mission, tel avion de telle nation, telle unité terrestre qui va demander l'appui-feu, tel contrôleur aérien avancé, etc. etc., etc. Et puis vous avez le troisième aspect, qui est tout aussi important et qu'on va retrouver, qui est un champ, je dirais, plus large, c'est l'interopérabilité que j'appellerais de façon générale cognitive. Alors, ça recouvre notamment l'interopérabilité culturelle. L'interopérabilité culturelle des cultures institutionnelles, des cultures stratégiques également des différents pays, mais aussi des cultures institutionnelles des différentes armées.
Oui, parce que toutes les armées n'ont pas la même culture, la même histoire, donc il y a forcément des...
On a par exemple l'habitude de dire qu'un pilote de l'armée de l'air ou de l'aéronavale sera plus sur le plan culturel interopérable avec un homologue américain ou britannique qu'il ne l'est avec un officier de l'armée de terre, par exemple. Là, ça renvoie à toutes les problématiques de culture institutionnelle et, dans ce contexte-là, de culture métier et de culture opérationnelle liée au milieu donné. Vous avez une grammaire, des termes, des méthodes, des façons de faire qui rapprochent ces communautés-là de façon transverse, je dirais, aux appartenances nationales. Donc ça, c'est ce troisième champ, donc le champ de l'interopérabilité culturelle, l'interopérabilité cognitive couvrant également la question de la compréhension entre les chefs. C'est un élément qui peut avoir aussi son importance. On sait par exemple que dans le Lord d'Enduring Freedom, les excellentes relations entretenues donc dans la phase initiale d'Enduring Freedom, au moment où...
Est-ce que vous pouvez détailler
dans la phase initiale d'Enduring Freedom en 2001, c'est-à-dire l'opération dans laquelle les Américains décident d'attaquer le régime des talibans en Afghanistan par rétorsion aux attaques du 11 septembre, dans laquelle nous, les Français, nous contribuons, bien, on sait par exemple que l'excellente entente entre les amiraux français et américains dans la création de l'interopérabilité entre le groupe du Charles de Gaulle qui était envoyé là-bas et l'US Navy a été un facteur qui a amélioré, qui a fluidifié considérablement. Donc ça, il y a une question d'interopérabilité culturelle, mais aussi une question d'interopérabilité entre chefs. Et donc c'est un élément qui joue également. Et puis le quatrième champ, qui, dans cette relation, par exemple, avec les Américains, peut apparaître contradictoire, c'est le champ stratégique, et qu'on oublie régulièrement, parce que ces trois aspects que j'ai évoqués, technique, procédural, vous trouvez différentes typologies, mais vous les retrouvez systématiquement. Le fait de pouvoir se comprendre, le fait de pouvoir se parler avec le même langage, et le fait d'avoir les outils permettant de se parler de façon technique, vous retrouvez ça dans toutes les typologies sur l'interopérabilité. Mais il y a un quatrième champ qui est le champ stratégique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que... alors là, c'est un champ qui est, lui, nécessairement multinational. C'est-à-dire que pour pouvoir opérer ensemble, l'un des domaines, c'est de pouvoir avoir... Alors là, c'est sur le plan juridique, sur le plan politique, un certain nombre de verrous à lever. Donc je pense notamment aux règles de partage de l'information. Prenez par exemple la logique américaine sur ce plan-là est quand même reste sur le principe un peu différente de la logique française ou de la logique d'autres pays européens. C'est la logique du retenir tout, partager par exception, qui est un peu la logique différente de celle que nous avons, nous, dans le domaine du renseignement militaire, j'entends, hein, notamment. C'est celle du share all, withhold by exception. C'est-à-dire qu'en gros, comme on n'a pas beaucoup de ressources, on va tendance à avoir à partager plus et à retenir par exception les éléments qui peuvent poser problème, les éléments les plus sensibles, etc., etc. Et vous voyez qu'on est sur des logiques qui sont comment chez les Américains ont des règles extrêmement rigides, qui sont des règles politiques, de restriction de partage de l'information. Ça n'empêche pas, les Américains d'inonder leurs partenaires d'informations et de renseignements, pour simplement que la machine tourne. Mais il n'en reste pas moins que sur les éléments les plus sensibles, ou en termes de fluidité et de rapidité de cet échange d'informations, vous avez régulièrement des blocages qui font l'objet à chaque fois des mêmes retours d'expérience dans toutes les campagnes et opérations et qu'on retrouve systématiquement. Vous avez également la problématique des règles d'engagement, des rules of engagement.
D'accord, et c'est super intéressant et ça permet aussi de faire le lien avec notre sujet du jour qui est l'interopérabilité dans l'OTAN. Est-ce que l'OTAN a des spécificités en termes d'interopérabilité? Est-ce qu'il y a peut-être des compétences particulières ou des manières d'entraîner les troupes?
C'est une finalité de la machinerie otanienne que de produire dans l'interopérabilité. C'est une de leurs vocations. Vous avez à cet égard deux fabriques de normes multinationales. Quand on parle de l'interopérabilité normative, et ça aboutit, c'est lié à l'interopérabilité technique également, un peu à l'interopérabilité culturelle, mais vous avez deux fabriques de normes internationales, de normes militaires. Vous avez l'OTAN et les Américains. Vous direz, bon, les Américains sont dans l'OTAN. Oui, mais les Américains, comme c'est un monde à part entière, le monde militaire américain, vous avez des fabriques de normes par commandement opérationnel. Et quand vous n'êtes pas dans le commandement EUCOM, donc le commandement qui est associé à celui de l'OTAN, vous vous retrouvez dans la zone Indo-PACOM ou dans la zone CENTCOM, vous aurez des procédures qui sont différentes. Donc vous avez ces deux machineries normatives. Alors nous, évidemment, pour des puissances comme la France, on va naturellement, de prime abord, reprendre les normes OTAN.
Alors justement, est-ce qu'on peut un peu détailler, parce que ça fait partie d'une des spécificités de l'OTAN, du coup en termes d'interopérabilité, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut détailler en quoi comment l'OTAN fabrique de la norme? Quelles sont les particularités de cette...
Alors commençons du haut vers le bas. Vous avez la production de doctrines communes, de directives politiques. Alors pas au sens de la décision politique de haut niveau, mais je parle de décisions en termes de directives, en termes de policy. Et puis ensuite, vous avez les doctrines d'emploi des forces. Donc là, c'est les Allied Joint Publications, c'est les AJP. Là, vous avez ensuite, vous avez surtout tous les multiples STANAG, les Standardization Agreement, qui vont fixer des normes, des standards, soit de procédure, donc de tactique, technique, procédure, soit technique ou autre, qui permettent aux nations, si elles les appliquent, d'être interopérables. Alors, il y a des standards qui vont être faciles à mettre en œuvre. Je donne un exemple, par exemple le standard, je n'ai plus le numéro, mais qui va, par exemple, vous expliquer comment est-ce qu'on émet dans une chaîne de commandement, au sens le plus large possible, dans une chaîne de commandement, une request for information, où ça vous explique ce qu'il faut faire. Après, vous avez des groupes de standardisation.
Et sur quoi sont basés ces standards? D'où ils les créent?
En fait, ces standards sont créés par des groupes de standardisation qu'elles contribuent les états-majors des pays membres.
D'accord.
Vous avez des groupes de consultation, c'est un système de dialogue. Alors, vous avez des personnels qui sont au sein de l'OTAN, qui vont travailler au sein de l'OTAN dans les organismes, NC3, etc., etc. Et puis vous avez évidemment les contributions des pays membres, qui vont apporter des propositions, proposer des rédactions, etc., etc., etc. Ça dépend en fait du cas de figure. Mais vous avez une puissance normative importante, donc qui va fixer... comme je vous disais, il y a des standards qui vont être assez simples de mise en œuvre. Puis derrière, vous aurez des standards techniques, et là, ça nécessite après, pour appliquer le standard technique, de mettre en conformité, les spécifications qu'on va adresser dans le développement d'un système ou sa modernisation ou autre, etc., etc. Et là, ça, il peut y avoir derrière des conséquences de coûts beaucoup plus importantes si on veut rester interopérable.
Il faut que les marines, par exemple, que les différentes marines de l'OTAN se mettent à niveau de ces systèmes.
Si on dit par exemple, alors je précise avant de passer l'exemple de les marines, l'un des axes de développement au sein de l'OTAN de production d'interopérabilité, c'est ce qu'on appelle le Federated Mission Network, le FMN. Le Federated Mission Network, ça vient de l'Afghan Mission Network, c'est-à-dire qu'en Afghanistan, devant la difficulté à rendre interopérables les systèmes nationaux de commandement et de contrôle au niveau de l'ISAF, eh bien, il a été créé toute une série de standards pour fédérer ces différents réseaux et pour les faire fonctionner ensemble. Et on a repris la bonne pratique de l'Afghan Mission Network au sein de l'OTAN pour développer en différentes spirales incrémentales, de développer tout un corpus de standards permettant aux systèmes d'information et de communication d'être interopérables. Donc c'est une entreprise qui a débuté principalement au milieu de la décennie 2010, qui maintenant en est à sa spirale 4, si je ne me trompe pas, qui va rentrer en œuvre là, mais qui se poursuit. C'est-à-dire que vous avez des spirales qui mettent 4 ans à être mis au point, c'est-à-dire qu'on sélectionne les standards, ensuite il faut vérifier la compatibilité des systèmes, il y a des expérimentations, etc. etc. Et puis ensuite, bah, ça aboutit à un train de standards qui est opérationnel pendant 2 ans, et puis ensuite qui a vocation à être remplacé par le nouveau train de standards qui est développé pendant ce temps-là. Donc vous voyez, c'est une approche en spirale et qui est de plus en plus ambitieuse, qui touche de plus en plus d'aspects. Donc là, par exemple, sur le FMN, ça va avant tout concerner initialement les Core Enterprise Services, c'est-à-dire en gros les services informatiques de base, messagerie, visioconférence, tous les standards, etc., de base pour faire fonctionner un état-major, tout particulièrement faire créer un système d'information et de communication. Et donc ça progresse dans l'idée d'avoir, donc ça produit des centaines de standards. Le problème, c'est après, est-ce que les nations sont capables de suivre dans l'acquisition ou la modernisation, etc., d'un certain nombre de systèmes respectant ces standards ? Parce que ce n'est pas le FMN qui va, comme un coup de baguette magique, faire que les nations vont être interopérables. Après, il faut adhérer à ces standards. Et il y a des fois des coûts derrière. Si on vous dit, tiens, maintenant, la norme, c'est tel type de liaison de données, pour être interopérable, il faut tel type de liaison de données. Si une nation ne l'a pas, derrière, vous avez une question programmatique, une question de coût, une question d'investissement, etc. aussi.
Et c'est intéressant ce que vous dites, ça permet d'embrayer aussi sur les plafonds de verre de l'interopérabilité, et notamment donc de l'interopérabilité otanienne, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations, enfin c'est pas uniquement des recommandations, mais c'est la mise en place de systèmes et de normes, et qui, vous avez mentionné les coûts économiques, il n'y a pas que ça, il y a des coûts capacitaires aussi potentiellement.
Oui, c'est-à-dire
C'est-à-dire que si... pour une opération navale, l'OTAN a besoin d'envoyer, il faut peut-être qu'il y ait une répartition hétérogène des marines, des différentes marines de l'OTAN.
Comment ça se passe, je vois. Effectivement. Non, effectivement, là, vous avez mécaniquement ces différentes contraintes, que ce soit des contraintes de mise aux normes, de mise aux standards, mais aussi des contraintes stratégiques. Mais aussi le champ stratégique dont je parlais en termes de partage de l'information, etc.
En fait, les 4 champs que vous avez évoqués, c'est potentiellement des contraintes.
Oui, ce sont potentiellement des contraintes, effectivement. Et donc, effectivement, vous avez raison. Dans ce contexte-là, ça peut aboutir à des principes de différenciation quant aux contributions des différents pays participants. Ça peut effectivement se trouver. Vous avez des niveaux... En fait, il y a aussi un point qui est important de noter dans le degré d'interopérabilité. On est dans une logique incrémentale, progressive, que les Américains ont essayé de théoriser et qui a évidemment essaimé un peu partout dans la progression de l'interopérabilité entre les différentes forces. Vous avez initialement la situation de non-interopérabilité, on va dire, d'interopérabilité minimale. C'est une situation dans laquelle vous avez à peine une coordination stratégique. Pour qu'il y ait interopérabilité dans un engagement, ils font quand même que les différents acteurs aient la même direction stratégique globale. C'est-à-dire qu'ils, voilà. Mais il peut des fois n'y avoir qu'une faible coordination. Et au niveau des forces, là, on est dans des logiques qui vont en rester à de la déconfliction. C'est-à-dire qu'on évite de se tirer dessus. Chacun fait la guerre dans son coin, chacun fait les opérations. Mais on évite de se tirer dessus, on évite de trop se brouiller, on évite, etc., etc. Ça, c'est la déconfliction. On est vraiment au niveau minimal.
Degré 1, déconfliction.
Puis ensuite, vous allez avoir le degré suivant, où vous allez avoir une logique de coordination. C'est-à-dire que là, vous allez plutôt être interopérable par le haut, c'est-à-dire déjà commencer à avoir un cadre commun et que tout le monde commence à tirer dans la même direction. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que les forces puissent horizontalement bien travailler entre elles. Mais enfin bon, voilà, tout le monde est à peu près... ça va au-delà de la déconfliction et on est un peu coordonné déjà. Puis ensuite, le troisième aspect, c'est là où après, dans la terminologie, on va un peu diverger par rapport à ce que nous avons imaginé, par rapport à ce que la grille, je dirais, d'évolution américaine. Le troisième aspect, c'est l'intégration, ce que j'appelle moi l'intégration des forces. C'est-à-dire que les forces sont capables, les forces au niveau tactique sont capables de collaborer entre elles à des degrés divers. Et là, c'est là qu'intervient justement, c'est le niveau où nous en sommes actuellement, c'est là qu'intervient notamment la logique, par exemple dans le domaine de l'interopérabilité technique et procédurale des systèmes d'information, qu'intervient cette logique de fédération des réseaux. C'est une intégration des forces. Et puis ensuite, vous avez le niveau ultime, on va dire, c'est l'intégration des systèmes. C'est-à-dire qu'au sein des forces... les systèmes d'armes et d'information sont intégrés. Quand je parle d'intégration, je veux dire quoi ? Parce que là encore, il faut définir les termes. Lorsque vous intégrez un certain nombre d'éléments, ça signifie que ces éléments se comportent comme un tout ou comme un élément de niveau supérieur. Prenons l'exemple de la marine. Quand la marine parle d'intégration, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un groupe aéronaval de tel pays. Vous allez avoir des bâtiments d'escorte de tel et tel autre pays, ils font partie constitutive du groupe aéronaval. Vous les retirez, il y a un problème dans le groupe aéronaval. De la même manière que dans leur mission elle-même, vous dénaturez complètement leur action parce que vous voyez, leur mission va être d'opérer de façon intégrée dans le groupe aéronaval du pays partenaire, français, américain ou autre, etc. Et donc vous allez avoir des forces qui fonctionnent comme un tout. C'est un bon exemple. Et puis ensuite, vous aurez le niveau poursuivant l'exemple de ce groupe aéronaval, vous aurez le niveau supérieur, l'intégration des systèmes, c'est quand le bâtiment qui est intégré dans le groupe aéronaval qui n'est pas du même pays, pourra faire du combat collaboratif avec les autres bâtiments du groupe naval. Et là, vous êtes dans de l'intégration système. Par exemple, partager des drones, par exemple, faire, des kill chains totalement intégrés avec les capacités des autres bâtiments du groupe aéronaval, etc., etc. Et c'est là où vous êtes dans une logique, et ça, c'est la logique future, la logique du combat collaboratif, la logique de l'intégration système. C'est la logique qui vient, sur laquelle tout le monde travaille.
Sur laquelle l'OTAN travaille aussi.
Oui, mais pour l'instant, je ne suis pas certain qu'on en soit encore là. Ces logiques de combat collaboratif, vous commencez à les trouver aux États-Unis. La marine américaine est la première marine historiquement, la première force historiquement, quels que soient les milieux. La marine américaine est la première force historiquement à avoir mis en œuvre ces architectures, comme on dit, distribuées pour des missions spécifiques déjà depuis une vingtaine d'années. Alors au départ, ça ne marchait pas bien. Après, toute la logique maintenant est de pouvoir passer de cette architecture très figée et très rigide à une architecture beaucoup plus souple, avec des réseaux manettes. Pour faire ça au niveau multinational, c'est déjà plus difficile. Pour faire ça en interarmée, c'est tout aussi difficile. Et c'est tout le cœur, je dirais, de la démarche américaine actuelle, notamment de la Combined Joint All Domain Command and Control, toute la feuille de route CJAD-C2. C'est toute cette logique-là.
Parlons aussi peut-être de l'intégration de la marine française au sein des activités maritimes otaniennes. Est-ce qu'il y a une spécialité de la guerre des mines pour la marine française ? Est-ce que la marine française, selon vous, s'intègre bien au sein des marines otaniennes ?
De ce qu'en disent les marins, oui. Une façon de répondre à la question, c'est de voir comment on se situe dans l'intégration multinationale selon les différents milieux. Il me semble que la marine est probablement l'armée la mieux intégrée avec les autres, les forces homologues alliées. Le milieu maritime, le milieu des opérations navales est celui où nos forces sont les mieux intégrées. C'est-à-dire que vous avez maintenant, depuis de nombreuses années, des groupes aéronavals multinationaux, avec des bâtiments qui viennent contribuer à escorter le Charles de Gaulle, ou des navires de surface français qui vont s'intégrer dans les groupes aéronavals américains. Mais avec effectivement, dans le cadre d'exercices ou d'opérations, alors c'est lié aussi naturellement, non seulement à ces différentes techniques d'interopérabilité, mais aussi au niveau, de façon générale, de capacité navale que les marines sont capables de délivrer. Disons que le niveau d'intégration par empatin avec la marine américaine témoigne du fait que pour la marine américaine, la marine française fournit des capacités qui sont tout à fait notables. Et je pense même, d'ailleurs, il y a quelque chose qui marque ça, enfin, qui rend compte de ça, c'est que c'est une des rares fois, pour suivre depuis beaucoup de longtemps la politique de défense américaine, c'est une des rares fois où j'ai entendu un amiral américain qui parlait dans un autre cadre, où il n'y avait pas du tout les Français, et qui parlait en mettant en exergue le modèle, ce modèle de l'intégration des forces navales américaines et françaises, et la qualité de la marine française dans un tout autre cadre, qui n'avait rien à voir. Donc le niveau naval est le plus intégré. Enfin, c'est probablement le milieu le plus intégré.
Et ça permet aussi d'embrayer sur les potentiels axes d'effort de l'interopérabilité. Sur quoi est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut travailler principalement sur les quatre champs que l'on a évoqués?
Les quatre champs, après, ce qui est distinct, vous le disiez tout à l'heure, les quatre représentent des contraintes, mais dans les quatre champs, la principale contrainte, c'est le champ stratégique.
Donc c'est le principal axe d'effort de l'interopérabilité.
Et oui, et ça, vous avez une évolution d'ailleurs du côté américain là-dessus.
C'est-à-dire
une évolution qui est quand même notable. Alors, je ne sais pas si ça se traduira par des choses effectives, mais les Américains ont maintenant conscience, dans la compétition stratégique dans laquelle ils sont engagés face à la Chine, qu'ils ne peuvent pas faire sans leurs alliés. Alors, il y a déjà les premiers alliés avec lesquels il faut faire, c'est que les Japonais. Vous ne pouvez pas faire non plus sans les Taïwanais. Vous ne pouvez pas faire sans les Australiens, ou difficilement. Donc déjà, c'est les premiers clients. Mais au-delà, vous avez tout l'ensemble des autres puissances au niveau global, et donc ça inclut la France et sa marine au niveau global. Et puis évidemment les Britanniques, ça va de soi. Et donc les Américains se disent, on peut plus faire sans. Et puis vous avez aussi les autres forces locales, les Philippines et autres, etc. Vietnam, bon, je sais pas si on en a, mais en tout cas Philippines et tout ça.
Et ce qui amène du coup à réfléchir aussi sur la notion d'axe d'effort. Ce que vous disiez par rapport aux États-Unis, c'est qu'il faut développer plus d'interopérabilité par conception.
Alors, pour les Américains, la réponse, et justement, c'est pour ça que les Américains travaillent activement, au FMN de l'OTAN, mais ils ont leur propre programme qui est le Mission Partner Environment, le MPE, qui vise précisément à rendre beaucoup, beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus flexible et en même temps beaucoup plus standardisé, donc avec beaucoup moins de surprises à chaque fois. D'avoir une norme unique pour l'élaboration justement des réseaux de coalition. Actuellement, comment ça se passe un réseau de coalition? Vous avez le réseau américain niveau secret qui fonctionne en US only, et puis vous avez les réseaux de coalition, c'est souvent des réseaux qui répondent à des normes, des réseaux centrix comme on dit. Vous avez également le réseau BICES dans le domaine du renseignement. Ces réseaux centrix, c'est une sorte de label, mais en fait, au bout du compte, ça renvoie à des standards très différents. De plus, ils ne permettent pas aux nations participantes d'utiliser leur propre système de commandement et de contrôle. C'est-à-dire que vous avez le réseau de coalition, vous utilisez le réseau Centrix, et il n'y a pas forcément de compatibilité avec vos propres systèmes. Donc les Américains, via le MPI, visent précisément, d'une part, à standardiser tout ça, à ce que les nations qui participent dans un commandement américain, dans un commandement opérationnel de telle zone et dans un autre commandement opérationnel de telle zone, retrouvent le même type d'environnement, le même type de standard, donc le même type de système. Et puis d'autre part, des systèmes qui permettent par interface, donc logique de fédération de réseau là encore, qui permettent d'utiliser leur propre système de commandement et de contrôle dans le travail de coalition. Et puis en plus, vous avez d'autres éléments qui bougent. C'est-à-dire que les Américains se rendent compte que dans cette intégration par le design, vous avez des prises de position, y compris des industriels américains, pour dire qu'il faut intégrer le besoin de l'interopérabilité multinationale dès le début dans la conception de nos systèmes et pas après coup. Vous avez des industriels qui disent ça. Et ils disent, bon, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à cette integration by design, qui est le terme employé par le général Brown, qui va être le chairman du Joint Chief of Staff, c'est le président du comité des chefs d'état-major des forces américaines.
Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Gros. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé en géostratégie et aussi dans les questions militaires et opérationnelles pour la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je remercie infiniment l'aspirante Marie-Alice Moïse qui m'a aidé à préparer ce sujet qui était quand même relativement complexe. Et à tous nos auditeurs, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Merci monsieur.
Merci à vous.